L'émission de littérature avec ce soir en direct par téléphone Dominique Quesada pour parler de Court traité d'altéricide qui a été publié il y a 2 mois maintenant aux éditions Verticales. Donc ce texte court qui est précédé de « À tombeau ouvert, un dialogue avec Peter Sloterdijk », un texte qui fait environ 150 pages, qui ouvre des perspectives inédites et on a accès à un travail en cours. Bonjour Dominique Quesada.
Bonjour, merci de me recevoir sur votre antenne.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous en direct. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de vous poser une première question très générale. Et donc, je vous demanderai de donner que des éléments vraiment généraux. Qu'est-ce qu'un altéricide ?
Ben, l'altéricide, c'est une des modalités du CID, c'est-à-dire de ce qu'on trouve dans le génocide, par exemple, ou dans l'ethnocide, ou dans l'insecticide. Enfin, une modalité d'assassinat, de mode de disparition, enfin, une façon de faire disparaître de façon radicale, en tout cas de manière éventuellement violente. Voilà, donc c'est un mode de meurtre ou c'est un mode de disparition d'une entité, là en l'occurrence l'autre, puisque altéricide est formé à partir de alter et de cide, donc de voilà la disparition de l'autre ou la disparition de l'ensemble des occurrences de la figure de l'autre.
Et alors, de quel autre s'agit-il ?
L'autre, c'est une énorme catégorie dans la pensée occidentale, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à le résumer ou à le réduire ou en tout cas à lui donner une signification qui n'est qu'une des parties de son air qui est assez importante. Alors pour souvent l'autre, c'est spontanément autrui ou l'autre sexe ou l'étranger ou le marginal ou l'immigré ou l'autre pays, enfin il y a énormément de façons spontanées de se dire tiens je sais ce que c'est que l'autre. En fait il me semble que bon ça peut aller jusqu'à effectivement le fait de se représenter l'autre comme Dieu, comme étant la figure la plus générale de l'autre ou la nature ou le réel, enfin voilà. Moi ce qui m'a semblé intéressant à essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce que c'est que l'autre, c'est de le prendre moins dans ce qu'il est finalement, puisque c'est une façon traditionnelle de poser cette question, hein, qu'est-ce que c'est que l'autre, plutôt que dans ce qu'il fait, ou que essayer de comprendre la place où il se tient. Et je crois qu'à partir de là, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on touche à des soubassements culturels, à des soubassements philosophiques tout à fait encore insus ou qu'on n'a pas tellement exhumé, disons. Mais je pense que l'autre, c'est avant tout un distributeur d'espace, que ce soit des espaces abstraits ou concrets. C'est un séparateur, c'est un principe d'organisation. Et donc, je crois qu'avant tout, c'est un opérateur autant logique que métaphysique, mais qui est en même temps la clé de voûte ou la poutre porteuse ou le pilier central de qui est nécessaire au fonctionnement d'un certain type de philosophie typiquement occidentale, c'est-à-dire la philosophie de la substance et de sa logique dualiste qui est basée sur la bivalence, sur le fait qu'on a des couples de concepts antagonistes et donc l'autre finalement c'est la pièce maîtresse d'un système du monde qui est basé sur la division. Et je crois donc que l'autre, c'est toujours ce qui se tient de l'autre côté d'une grande division fondatrice.
Parce que vous faites bien la différence entre ce qui pourrait être la différence et l'autre.
Oui, bien sûr.
Vous faites la distinction, la différence existe toujours.
Absolument, c'est vrai que ça paraît complètement au premier abord paradoxal de parler d'une disparition de l'autre dans un temps où on ne parle que de différences et où on ne voit aussi, enfin c'est facile de les voir, l'espèce d'explosion des différences, que ce soit dans les revendications identitaires, que ce soit dans les modes d'habillement, dans les modes de consommation. Il y a une énorme diversité des individus et donc on est obligé de se rendre compte qu'il y a effectivement une grande prolifération de différences. Mais ce qui me semble, moi, c'est que cette prolifération de différences, elle n'est pas du tout le signe d'un autre victorieux ou très puissant. Elle est au contraire le signe de la dis- disparition de l'autre. Si on voulait résumer ça, on pourrait dire que on est une civilisation qui est destructrice d'altérité, donc productrice de différence.
Alors, on sait ce qui est mort, c'est l'autre.
Oui.
De quand date la mort? De quand elle date?
Je crois que c'est compliqué de dater historiquement quelque chose qui tient de l'ordre d'une séquence logique et donc qui se déroule sur un temps assez long. J'ai essayé de montrer, en tout cas pour une partie, que la disparition de l'altérité, de cette dimension-là, de l'altérité, elle avait à voir avec profondément les modes de fonctionnement du système démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, mais tel qu'il existe dans sa structure même. Donc on pourrait, si on voulait dater ça, si on tenait absolument à dater ça, on pourrait dire que la fin de l'ancien régime et puis l'émanation comme ça tout d'un coup d'un nouveau type de légitimité qui vise à la disparition de la transcendance, même si elle n'en est pas évidemment totalement absente, on pourrait dire que le point d'origine, il a un peu à voir avec cette dimension-là, d'un côté, de l'autre côté, avec les grandes découvertes, enfin le temps, comme ça, des temps modernes où on est allé, où on a pris des bateaux pour aller voir de l'autre côté du monde, d'une certaine manière, ce qu'il s'y passait, avec l'espèce d'homogénéisation qui s'en est suivie sur des siècles. Donc je crois que c'est difficile de le dater comme un événement, parce que ça n'est pas un événement à proprement parler, c'est une séquence logique, et c'est une séquence logique qui se donne plutôt comme un non-événement, c'est-à-dire quelque chose dont on ne peut appréhender la réalité qu'à travers la façon dont son absence touche nos vies, mais en aucun cas dont on aurait pu observer les modes de disparition. Je veux dire, personne n'aurait pu être sur les lieux du meurtre ou du crime pour faire une photo de la disparition de l'autre.
Et alors, y a-t-il d'autres personnes qui se sont aperçues de ce meurtre ?
Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de d'intellectuels, de penseurs ont pu tourner autour d'une figure comme celle-ci, mais à ma connaissance, non. Je crois que mettre la disparition de l'autre au centre de la compréhension du monde contemporain, enfin en tout cas ce qui lui donne sa particularité, sa forme, et puis aussi ce côté de cette impression d'une grande bascule vers des catégories qui sont en train de s'inventer, en tout cas qui sont fondées sur la disparition, la liquidation de catégories qui ont fait fonctionner très longtemps la pensée occidentale. Je pense que ça, c'est une chose assez, enfin qui me semble assez propre à mon travail.
Alors, on sait ce qui est mort, on l'a daté, on va continuer à mener notre enquête policière. Oui. Vous avez déjà donné des éléments de qui était le coupable. Vous nous avez parlé de la naissance de la démocratie, des nouvelles découvertes, du nouveau monde. Et j'aimerais que vous précisiez un petit peu quand même ce coupable.
Oui, enfin, à aucun moment je me hasarderais à nommer ça un coupable. Je veux dire que là, on est dans des champs de force, dans des opérations qui ont à voir avec des définitions de territoire et des modes de fonctionnement, et qu'on est dans les conséquences logiques du mode de fonctionnement de ces fonctions et de ces territoires. Donc, à aucun moment quelqu'un n'a énoncé ou n'a conçu la volonté de tuer l'autre, mais on peut dire que cet état nouveau, enfin qui serait, on pourrait appeler un état d'analtérité, hein, c'est-à-dire un état qui distinguerait quand même notre époque de celle qui l'ont précisé, elle est venue à travers la façon dont le mode de fonctionnement du pouvoir en démocratie arrive finalement à geler le temps est une donnée qui semble très compliquée. Alors peut-être peut-être c'est très compliqué de l'expliquer là en quelques minutes, mais pour essayer de faire simple ou de faire court, on arrive en démocratie pour une multitude de raisons extrêmement intéressantes à essayer de comprendre. On arrive en démocratie à une immobilisation ou à une sorte de gel du temps qui se met à fonctionner sur le mode d'un présent perpétuel. Alors bon, on voit déjà Tocqueville l'a très très bien cerné, Debord l'a très très bien cerné. Enfin, c'est un phénomène qui est tout à fait bien compris, et que ce présent perpétuel finalement produit une forme de court-circuit dans le champ général de nos catégories, puisqu'il, d'une certaine manière, il interdit le fonctionnement du principe le plus essentiel de la logique depuis Aristote, c'est-à-dire le principe de non-contradiction. Et on est donc dans ce temps aujourd'hui où on a une sensation, juste du fait qu'on a une sorte de liquidation de l'ensemble des systèmes de négativité à travers le fait que le principe de non-contradiction ne peut plus fonctionner de la façon dont il a fonctionné jusqu'alors. Et donc on assiste à ce court-circuit de toutes les catégories binaires qui fonctionnaient sur le mode de série de couples antagonistes qui se fondent les uns dans les autres. Alors j'ai essayé de cerner ça par le terme de esclave-maître que j'ai écrit en un seul mot pour essayer de montrer qu'on était dans un état qui avait à voir avec la fusion des catégories de ce qui a fait fonctionner notre pensée et nos modes de fonctionnement, que ce soit politiques, sociaux, intellectuels, c'est-à-dire la dialectique. Et donc on est avec l'altéricide dans le moment de la fusion des catégories de la dialectique, c'est-à-dire on entre dans un mode de fonctionnement post-dialectique, et ce qui fait qu'on peut observer ça à une très grande variété de niveaux. Mais par exemple, si on voit ça, par exemple, cette espèce de fuite de la négativité, on le voit très bien dans la langue, où dans la langue, on a une espèce de devenir positif de toutes les négativités. Ça a un peu commencé avec le moment où on ne parlait plus de pays sous-développés, mais de pays en voie de développement, où on ne parlait plus d'aveugles, mais de non-voyants. Enfin, vous voyez, il y avait cette façon de recalibrer finalement les modes de nomination autour de catégorisations essentiellement positives. Ce mouvement-là, il a été rendu paroxystique par ce mouvement assez connu du politically correct aux États-Unis, où il s'agissait justement de ne plus pouvoir nommer négativement, au sens où ce négatif serait une sorte de désignation infamante, une minorité. Donc aux États-Unis, on arrive maintenant à des espèces d'aberrations, de façon de zigzaguer autour des nominations négatives pour produire une langue essentiellement cernée par la positivité. Donc on est dans ce système post-dialectique, dans une liquidation, une mise en faillite finalement de tout ce qui constituait l'autre côté de la parole ou de la pensée et donc du système de la dialectique. On n'est plus dans un système de dialectique puisque on a perdu l'autre, c'est-à-dire on a perdu l'autre côté qui était celui de la négativité.
Alors vous avez bien parlé des effets que fait l'altéricide. J'aimerais qu'on en parle du mobile. Vous dites en fait que ce meurtre de l'autre, c'est une logique. Est-ce que c'est le mobile, est-ce que c'est uniquement une logique comme ça qui s'est mise en place? Est-ce que c'est uniquement la logique? Est-ce qu'il y a une part de volonté? Voilà, j'aimerais savoir si est-ce qu'il y a de la volonté dans ce meurtre, même une volonté collective par exemple.
Oui. Peut-être qu'on peut, alors ça, et après il faut rentrer dans d'autres types de considérations, mais c'est que l'autre, pour ça on est obligé de regarder un peu plus encore en profondeur ce que c'est l'autre, et ça c'est quelque chose qui est qui est pas du tout dans ce livre là, et c'est le livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment et qui s'appelle L'homme sans autre. Si on rentre dans cette figure de l'autre, on peut dire que ce que je viens d'écrire finalement est très résumé, peut être résumé dans une vision de, vous savez, cette espèce d'impression que maintenant il y a de l'économie partout, où on ne parle plus qu'en termes de stricte économie, que l'on parle de culture, que l'on parle de, d'enjeux militaires, que l'on parle de social, que l'on, on se heurte immédiatement à ce système économique. Et je crois que ça a à voir avec ça, avec le fait que l'autre, c'est une entité qui est absolument anti ou aneconomique. L'autre, si on veut le voir, par exemple, fonctionner dans le dialogue, dans la matrice même de la philosophie occidentale, qui est le dialogue platonicien, l'autre, c'est quelque chose qui est ce par quoi on doit passer pour obtenir une négation de son propre discours. Et que, à partir de là, c'est un chemin extrêmement paradoxal, alors qui est très bien décrit par Lévinas, ou qui est très bien décrit sur un autre terrain par Jean Kelevitch, sur le mode du paradoxe de la morale, par exemple, où il faut que l'autre soit d'accord pour être dans un système moral, pour que finalement le système moral puisse fonctionner. Mais ce dont on se rend compte, c'est que l'autre est finalement une donnée par laquelle la parole, l'intention, l'action doit passer pour qu'elle me soit renvoyée, un peu sur un mode de retour sur investissement, si on prend que des termes économiques. Et donc, quand vous parlez de volonté, ou de volonté plus ou moins consciente, ou plus ou moins perçue, peut-être qu'on peut se dire ça. Peut-être que l'autre fait les frais aussi d'une mise en économie de tout. Parce qu'un rapport que j'ai essayé de nommer dans un autre livre comme étant la société de consommation de soi, c'est-à-dire d'un principe d'autophagie fondamentale sur laquelle se sont mises à fonctionner les démocraties occidentales, suppose finalement que l'autre non pas est disparu, mais en tout cas soit démis de la place fondamentale où il était dans le système de valeurs et dans l'organisation mentale qui a précédé notre période historique. Donc il y a peut-être, non pas une volonté, mais disons une sorte de soulagement paradoxal à voir cette entité, l'autre, disons amoindrie ou empêchée, ou puisque au bout du compte, et ça on peut le voir dans nos vies quotidiennes, l'autre est souvent à la fois une nécessité, mais une nécessité bien éprouvante. Donc peut-être qu'il y a d'un point de vue civilisationnel un principe d'économie qui ferait que cette dimension-là peut être considérée, à tort ou à raison, je n'ai pas là aujourd'hui à me prononcer là-dessus, mais comme une dimension dont on pourrait faire l'économie, ou en tout cas dont on pourrait se rendre compte qu'elle a servi jusqu'alors à des modes de fonctionnement qui supposent une énorme déperdition énergétique.
Alors, l'autre est anti-économique, il est également antidémocratique, alors
Je ne sais pas si on peut dire qu'il est antidémocratique, parce que l'autre, c'est pas la dimension de la démocratie. La démocratie, c'est vraiment l'ordre du même. La démocratie, elle prend sa légitimité à partir du moment où on liquide très précisément le système de l'Ancien Régime, qui lui est fondé sur l'autre, c'est-à-dire avec un roi qui incarne cette dimension de l'autre de manière corporelle, de manière symbolique. Donc la démocratie, c'est vraiment l'ordre du même. La démocratie, donc de ce point de vue-là, on peut dire oui que l'autre, avec un grand A, enfin, tel que je le définis, ça serait en tout cas quelque chose qui précéderait la démocratie et qui semble difficilement compatible avec les enjeux fondamentaux et les modes de fonctionnement de la démocratie.
J'ai envie de faire un peu de prospective ou de futurologie. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de rétablir l'autre ? Ou alors est-ce qu'il faudrait définitivement changer de société ?
Mais je crois que c'est ça qui m'a beaucoup frappé en commençant à m'intéresser à ces questions, c'est de voir que la plupart des approches intellectuelles de ce qui tourne autour de ces questions sont très massivement représentées par une tonalité mélancolique, voire réactionnaire, et de toute façon qui me semble d'une essence dépressive. C'est-à-dire, effectivement, la recommandation en face d'un tel tableau clinique, ça serait, évidemment, il faut faire un retour à l'autre. Or, ce que j'essaye de montrer, peut-être un peu dans ce livre et surtout dans le prochain, que l'ensemble le système mental dans lequel l'autre avait cette fonction a lui-même disparu. C'est-à-dire que l'approche nostalgique, si elle a une rentabilité éditoriale, parce qu'il est toujours très très rentable de flatter cette dimension de la mélancolie ou de la nostalgie. Enfin, en tout cas, on trouve toujours des gens qui se sentent très rassurés par ce type d'approche. Mais en tout cas, il me semble que ce à quoi il faudrait retourner pour que l'autre existe de nouveau n'existe plus, si ce n'est comme un folklore ou comme une parodie. Enfin, Baudrillard s'est intéressé beaucoup à ces systèmes de simulacres et de parodies. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas retourner en arrière parce que cet arrière où il faudrait retourner n'existe plus, il n'y a plus d'arrière. Et ce monde mental où il faudrait retourner pour que l'autre redevienne l'autre, c'est un lieu symbolique qui n'existe plus. Donc il n'y a plus de retour, il n'y a pas de retour en arrière possible, si ce n'est sur un mode, comme je le disais, sur un mode d'une proposition qui vise à flatter la mélancolie de ceux qui ne sont pas encore vraiment à même d'affronter cette réalité, parce qu'elle est finalement assez effrayante, étant donné qu'elle met en court-circuit ou elle met en danger énormément de catégories sur lesquelles l'humanisme s'est construit et a créé une civilisation qui est la nôtre, qui est quand même une très grande civilisation. Donc on a à l'intérieur de ça, évidemment, une envie que ça dure. Mais cette envie que ça dure, je crois qu'elle est malheureusement... elle ne peut pas trouver de façon d'être entendue par la réalité. Et c'est à mon sens ce qui permet d'expliquer ou de comprendre pourquoi tant de nos catégories spontanées, enfin acquises par notre culture de manière assez naturelle, ne fonctionnent plus. Et comme on a beaucoup d'entre nous ont cette impression. Moi, je parle beaucoup avec les gens autour de moi et beaucoup comme ça, mes amis ont cette impression comme si un grand nombre de catégories mentales étaient grippées ou étaient comme si elles n'avaient plus de capacité finalement d'engrenage avec la réalité d'aujourd'hui. C'est ça, moi, qui me semble intéressant d'essayer d'affronter, justement.
Alors. Pour continuer sur cette idée de retour, j'avais plutôt dans l'idée, est-ce qu'on peut plutôt ne pas imaginer un retour, mais plutôt une action inédite. Je m'explique, je pensais par exemple, alors c'est farfelu, mais essayons de pousser un peu les idées, à une rencontre extraterrestre. Est-ce que l'extraterrestre, ce ne serait pas un autre véritablement autre? Rencontrer des extraterrestres, des espèces extraterrestres, est-ce que ça ne serait pas véritablement un autre qui là arriverait? C'est-à-dire que ça nous mettrait dans avec devant de l'action inédite et non pas vers un retour. Est-ce que
Absolument,
ça pourrait être possible?
Mais je ne suis pas sûr que cet extraterrestre il puisse bénéficier du concept d'autre. Je pense qu'il y aura, si ce genre d'événement arrive, ce qui est assez probable, il y aura besoin de forger une catégorie différente, parce que l'autre est relatif à un type d'espace mental dans lequel l'extraterrestre a assez peu de place. Mais à supposer donc qu'on reste dans ce cadre mental, là évidemment tout d'un coup on aurait une revitalisation, disons, du concept, en tout cas une façon de le réinterpréter ou de lui redonner une sève, une vie, une dynamique qu'il a aujourd'hui singulièrement perdue. Enfin, c'est un concept qui vit sur un mode aujourd'hui. Il y a deux modes de fonctionnement de ce concept d'autre aujourd'hui. Il y a le mode fantomatique ou ectoplasmique dans lequel il est dans beaucoup de schémas intellectuels. Et puis il y a un autre il y a un autre mode qui est très intéressant à essayer d'aborder aussi, qui est le fait qu'une énorme quantité d'énergie de notre civilisation contemporaine est dépensée pour fabriquer de l'autre, enfin, mais pour fabriquer de l'autre sur un mode artificiel, pour fabriquer un autre artificiel. Et je crois qu'une grande quantité des efforts, par exemple, militaires des États-Unis, si on regarde la politique extérieure ou étrangère des États-Unis ces dernières années, peut être lu à travers cette idée de fabrication d'un autre artificiel. Dans votre hypothèse, effectivement, l'autre ne serait plus ni artificiel ni ectoplasmique, il serait tout d'un coup incarné, déjà ce qui le rend particulièrement peu apte, à mon avis, à pouvoir être accordé au concept d'autre, qui est une entité logique à mon sens, mais en tout cas reprendrait une viabilité extrêmement intéressante à penser.
Alors, on a vu qu'au centre de votre pensée, on est dans la compréhension du monde contemporain. Vous faites une philosophie qui essaie de se placer, de penser le centre de la compréhension du monde contemporain. Et donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des catégories qui ne fonctionnent plus. Ça, c'est évident. C'est vrai qu'on en fait quasiment au quotidien l'expérience. Il y a des catégories qui ne fonctionnent plus. J'aimerais que vous nous parliez de ces catégories qui ne fonctionnent plus. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples, c'est-à-dire être dans des choses concrètes, quotidiennes, qui montrent que voilà, il y a des catégories qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a ce concept d'altéricide.
Oui. Je ne sais pas, par exemple, si on regarde... vous savez, il y a cette fameuse expression de Debord qui parle de la société du spectacle. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde un peu sérieusement les choses, on se rend compte qu'on est dans une société qui est majoritairement organisée autour de la captation des effets de visibilité, notamment par les médias audiovisuels, mais qui n'ont finalement assez peu à voir avec ce que c'est qu'un spectacle au sens classique du terme. C'est-à-dire, le spectacle est un terme qui est fondé sur l'existence d'une grande division fondatrice. Enfin, on pourrait dire même que le principe même de la salle de théâtre est une des illustrations les plus classiques de ce système mental dont je parlais tout à l'heure, où on a d'un côté la scène, de l'autre côté la salle, et où ceux qui sont dans la salle ne sont pas les mêmes que ceux qui sont sur la scène, et ce qui se joue sur la scène n'est absolument pas du même ordre que ce qui se joue dans la salle, avec entre les deux l'effet de scène, c'est-à-dire la coupure qui sépare l'un et l'autre. On voit bien d'ailleurs que le théâtre moderne, enfin le théâtre qui essaye de s'accorder finalement avec le monde d'aujourd'hui, c'est un théâtre qui ne joue que sur cette dimension, enfin essentiellement sur quelles sont les limites de la scène, est-ce qu'il y a encore un sens à parler d'une scène, etc. etc. Bon. Si on voit que, par exemple, la télévision fonctionne sur un tout autre mode, à savoir l'absolue identité entre ceux qui regardent et ceux qui regardaient, enfin, on voit la prolifération, par exemple, de reality show ou de real TV, enfin de télévision, de télé-réalité, cette invention finalement assez récente, où on ne peut plus faire de différence entre ceux qui regardent et ceux qui regardaient. Et cette non-distinction fait que la division entre la scène et la salle a totalement disparu. Ça, par exemple, c'est une des choses dont on peut se rendre compte très simplement, et que on n'est absolument pas dans la société du spectacle aujourd'hui, mais on est bien dans la société de quelque chose qui est fondé sur la disparition même de la notion de spectacle au sens classique du mot.
J'aimerais, pour ma dernière question, aborder la forme du livre, parce qu'on a affaire à un travail en cours. On a un texte inédit, le chapitre 1, qui s'appelle l'altéricide, et puis il est entouré par un dialogue avec Peter Sloterdijk. Et puis, il est entouré par, à la fin, chapitre 2, L'esclave maître, qui est un texte extrait de votre avant-dernier livre, L'esclave maître, sans doute un peu modifié. Donc là, on est dans un travail en cours pour vous. Publier ce livre-là, c'était à un moment donné, dire voilà, je suis dans ce travail en cours, parce que le texte inédit, on a l'impression qu'il va être repris dans un volume plus gros prochainement. C'est ça ?
Il est d'ailleurs annoncé à la fin de l'introduction, ce livre à venir, mais je crois que c'était relativement important pour moi d'arriver à donner une espèce d'extrait de ce gros livre qui s'appelle L'esclave maître, que j'ai publié il y a quelques années, dans ce chapitre 2, qui est une sorte de condensé de ce qu'il y a dans ce livre, enfin en tout cas d'une espèce de description de séquence logique qui mène à la figure de l'esclave maître, c'est-à-dire au premier sans autre, d'une certaine manière, de façon à ce que cette élaboration puisse constituer le socle très visible de ce livre qui s'appelle L'homme sans autre. Alors je ne sais pas si c'est... Oui, peut-être c'est assez inhabituel comme mode de fonctionnement, mais... ça me semblait important de voir que on pouvait tourner autour de ce sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais qui est parti de la société de consommation de soi, où donc on a le rapport à soi, l'esclave maître, c'est-à-dire la fusion des catégories de la dialectique, pour arriver à l'altéricide, c'est-à-dire la disparition de l'ensemble des modalités de la figure de l'autre, où là on a un trajet qui est extrêmement cohérent avant d'ouvrir à une espèce de fabrication de catégories qui me semble nécessaire aujourd'hui, ou de concepts. C'est quand même le travail que Deleuze a assigné aux philosophes, hein, fabriquer des concepts. Voilà, j'ai l'impression que esclave maître est un concept, ou altéricide est un concept, et que ça donne une lisibilité à ce trajet pour que l'homme sans autre, sur lequel je travaille donc maintenant, trouve son terrain extrêmement clair pour sa publication.
Eh bien, merci beaucoup Dominique Quesada d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Merci beaucoup de vos réponses vraiment éclairantes. On aurait pu aborder aussi le style de votre livre, cette manière toujours didactique, explicative, toujours cette volonté d'expliquer, d'être le plus clair possible. Et on entend bien dans votre réponse que vous faites constamment un effort d'expliquer les termes que vous employez, très loin d'un jargon parfois abstrait dont on accable parfois la philosophie. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.